Je vous invite à ouvrir votre Bible en Jacques chapitre 5. On va terminer l'étude de cette épître aujourd'hui et c'est pas le plus facile non plus ces passages. Alors, c'est un peu de s'arrêter dessus. Jacques chapitre 5, versets 13 à 20. Quelques-uns parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors on arrive à la fin de cette épître qui nous parle de ces chrétiens dans la persécution, proie à des tentations, à l'envie de se venger, des chrétiens qui doivent apprendre la patience, comme nous aujourd'hui. Jacques a averti des dangers de la richesse, des dangers de la langue. Bref, il arrive à la fin de cette épître et va nous parler de certainement le meilleur moyen pour traverser la persécution, ben c'est justement la prière. Et là, il va faire plusieurs sortes de prières, où il y a plusieurs facettes, on pourrait dire, dans la vie de prière d'un chrétien. On va les voir les uns après les autres. C'est un texte aussi qui a été un peu tordu, mais on va voir, parce qu'on peut dire n'importe quoi avec ça. La première facette de la prière, c'est qu'on peut prier en toutes circonstances. Vous n'avez pas besoin d'être là le dimanche matin. Non ? On peut prier chez soi et dans toutes les circonstances de notre vie. Le premier cas qu'il donne, évidemment, et là c'est le contexte, c'est que si quelqu'un est dans la souffrance, le mot c'est pas notre souffrance comme on le ressent nous des fois, mais on parle d'être maltraité, affligé, souffrir des maux, et certainement de la part des ennemis, de la part de ceux qui persécutaient à ce moment-là les chrétiens. Donc il souffre là, à ce moment-là, de la persécution. Mais quand on souffre de la persécution, et même, on pourrait dire habituellement, ben des fois on peut accuser Dieu. Ah, c'est encore à cause de toi. Ou parfois on peut tomber en dépression carrément, parce qu'on n'arrive pas à lutter. Et quand on est dans ces situations-là, on a beaucoup de mal à prier. Et c'est pour ça que Jacques dit, vous êtes dans la souffrance. Eh bien c'est maintenant qu'il faut prier. Il faut vous mettre à prier. Qu'il prie, ou alors l'expression pourrait dire qu'il continue de prier. L'idée de Jacques, c'est pas qu'on se soit arrêté de prier, mais peut-être qu'on a un peu plus de mal dans ces cas-là. Mais il faut justement faire l'effort de continuer de prier. Vous savez, le diable, lui, il veut stopper le chrétien. C'est son boulot. Il a un job, c'est vous stopper. Me stopper. Et il va employer justement la souffrance, parce que c'est là où on est souvent paralysé. On s'arrête de lire la Bible, de prier, d'aller peut-être à l'église, parce qu'on va mal. Je comprends, quelque part. Mais Jacques dit, attention. C'est là où il faut justement redoubler d'efforts. Parce que sinon, le diable va vous paralyser vraiment. Et quand il paralyse quelqu'un, ça peut aller très loin des fois. Le seul moyen de passer l'épreuve, de traverser cette souffrance, c'est justement de rester en communion avec Dieu. Ce n'est pas toujours simple. Puis en contraste, si quelqu'un est dans la joie, il est dans la joie ? Ouais. Donc vous êtes plus dans la souffrance, j'ai l'impression. Hein ? Ça nous arrive d'être dans la joie, j'espère quand même, de temps en temps. Hein ? Être dans la joie, ça signifie, le mot grec veut dire être plein de courage, un peu zélé quelque part, mais dans la joie et joyeux. Et le chrétien vit aussi des moments de joie. En tout cas, je vous le souhaite, parce que ça serait vraiment triste, sinon votre vie. Mais quand on est dans la joie, autre chose qui nous arrive, et un défaut, c'est qu'on oublie tout doucement Dieu. Oh, pas tout de suite, mais avec le temps. Quand tout va bien pendant 15, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 4 mois, tout doucement, on se rend compte que Dieu, bon, on n'en a pas trop besoin en ce moment, tout va bien. Donc il y a aussi ce problème-là. Ben, Jacques dit qu'il chante des cantiques. Le mot cantique, c'est psalo, ça rappelle un autre mot, psalmo, psaume, quelque part. Hein. Et il veut dire chanter, célébrer, chanter des cantiques en l'honneur de Dieu, ou chanter tout simplement des psaumes. Si vous avez l'occasion, si vous êtes un peu musicien, ben, prenez le temps une fois de prendre un psaume et mettez-le en musique. chantez-le, même si vous chantez faux, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est d'être heureux devant Dieu et de pouvoir l'honorer au travers de ce chant. Vous savez, la joie fait partie du fruit de l'esprit aussi. Il y a beaucoup de choses dans ce fruit, mais la joie fait partie aussi du fruit de l'esprit. Et quand on est heureux, c'est que le Saint-Esprit dit que ça va bien aussi au fond de nous. Et là, on a envie tout simplement de chanter et de louer Dieu. Avec joie. Souvent, on vient le dimanche matin fatigué. C'est comme vous, je suis fatigué aussi le dimanche. Mais il faut y mettre de la joie et de la sincérité aussi, parce qu'à force, on peut chanter juste pour chanter, et ça, Dieu n'agrée pas, tout simplement. Mais la joie pousse à louer Dieu, à être reconnaissant d'avoir une aide en toutes circonstances, parce que c'est ça. Si vous êtes dans la souffrance, Dieu est là. Si vous êtes dans la joie, Dieu est toujours là. Il est toujours là pour nous aider dans toutes les circonstances de notre vie. C'est génial, non ? Formidable. C'est nous qui en profitons pas, hélas. Puis Jacques aborde une deuxième facette de la prière, c'est cette prière pour rétablir celui qui est dans la faiblesse. Je fais exprès de changer un peu ce qu'il dit, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il dit « si quelqu'un est malade parmi vous ». Alors la question c'est de se poser de quelle maladie il parle là. Dans la Bible, on voit qu'on peut être malade parce qu'on est malade, on chope une grippe, vous n'avez rien fait pour ça. On voit par exemple qu'on peut aussi être malade parce qu'on a péché. Par rapport à la scène, il est dit dans 1 Corinthiens 11 que certains sont malades ou sont morts parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la scène. Et il peut arriver des maladies, et je suis très prudent aussi, qui peuvent être liées à mon péché. Si vous êtes dans la dépression, bien souvent ça vient de l'amertume peut-être derrière, ou de choses qu'on ne veut pas pardonner, ou il y a un tas de raisons. Pas toujours non plus, mais bon. Donc il y a à la fois des maladies qui sont naturelles, qui arrivent comme ça, parce que... Il faut de temps en temps tomber malade. Moi, j'aime bien tomber malade parce que quand je suis guéri, je me dis « qu'est-ce que je suis bien quand je suis guéri ?» Non, pas vous ? Non, pas ma zone. Ah, mais c'est vrai, c'est quand on est malade qu'on se rend compte qu'on était tellement bien avant qu'on a envie d'y retourner. Et c'est là où on peut dire merci Seigneur aussi. Mais il nous arrive aussi des fois d'être malade à cause de notre péché. Et là, il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations de ce texte. Par exemple, les catholiques ont parlé là de l'extrême onction. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est avant de mourir, quelqu'un peut demander l'extrême onction et Dieu le guérira de tous ses péchés. Évidemment, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Il y en a d'autres, et peut-être plus vers les pentecôtistes, qui voient que Dieu guérit toujours. Il y en a qui ont les dons de guérison, sont capables de tout faire, mais quand on les voit à l'œuvre, il ne se passe pas grand-chose, généralement. Non, ce n'est pas la maladie physique dont Jacques est en train de parler là. En train de parler d'une autre forme de maladie. Il emploie deux mots grecs, je vais être un peu technique ce matin, mais je suis désolé, mais le mot malade, au verset 14, qui parle de malade, de faible, d'être sans force, en fait. C'est pas une maladie physique, c'est plutôt être sans force. On pourrait parler d'une foi qui est faible, si on veut un peu étendre le mot. Dans 2 Corinthiens 12, 10, Paul emploie le même mot pour lui en parlant de ses faiblesses. Il est dans la persécution, dans la difficulté. Il ne parle pas là de maladie physique, mais de faiblesse spirituelle. Puis un autre mot que Jacques emploie au verset 15, qui dit se lasser, être là, être malade, qui évoque plutôt une lassitude. Ça nous arrive des fois d'être chrétien, d'être à fond, et des fois d'être complètement fatigué. Bon là, on est quand même dans un cas un peu grave de lassitude. On peut tous avoir des coups de blues, ça nous arrive. Mais là, je pense que la personne s'est vraiment enfoncée dans cette lassitude. Je ne sais pas, imaginez tout simplement que vous êtes en pleine persécution, parce que c'est le contexte, que votre famille vient d'être massacrée par les Romains. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie, là, vous n'avez pas envie de rigoler. Et bien, certains peuvent avoir la force de résister, mais d'autres vont se laisser aller aussi. Je pense que c'est de ce genre de personnes que Jacques est en train de parler, non pas de maladie physique, mais de faiblesse spirituelle. La faiblesse spirituelle peut aussi engendrer des fois des maladies, évidemment. Mais on va s'arrêter simplement sur ce que dit Jacques. Donc il arrive aux chrétiens d'avoir des temps de faiblesse, de fatigue spirituelle, et surtout, comme on l'a dit, dans la persécution, peut-être par l'effroi, par la peur. Il y a mille et une façons de tomber dans cette forme de dépression, entre guillemets, et on peut être lassé. Et Jacques veut justement leur dire qu'il y a peut-être une solution pour sortir de cette lassitude. On remarque aussi par rapport au texte que cette maladie ou cette lassitude peut être liée au péché aussi, puisqu'on va le voir un petit peu plus tard. Donc ce n'est pas forcément une maladie physique, mais c'est plutôt quelque chose qui peut être lié, je ne sais pas, dans un chrétien qui a un péché, qui n'arrive pas à s'en sortir. Le fait de ne pas pardonner, ça c'est aussi péché quelque part devant Dieu. Et ça peut devenir quelque chose qui reste dans le cœur, qui passe dans l'inconscient et qu'on oublie des fois et qui finalement nous pèse dans notre vie. Il y a beaucoup de chrétiens amers parce qu'ils ne pardonnent pas. Ça peut être leur famille à l'époque, ça peut être dans l'église, enfin il y a mille et un cas et qui n'arrivent pas à avancer. Et donc Jacques dit, dans ces cas-là, si vous vous retrouvez un jour dans cet état-là, je suis désolé pour vous, convoquez les anciens, les pasteurs, donc. Et pourquoi il demande aux anciens ? Ben, tout simplement parce que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, il dit que les bergers sont là pour consoler, justement, ceux qui sont dans l'abattement. Ils n'ont aucun pouvoir, mais c'est leur travail, on pourrait dire, que quand les brebis sont pas bien, d'aller les voir, de les réconforter et de les encourager. Et il dit de prier pour eux, littéralement en grec, hein, là je vais être précis, c'est prier sur lui. Je prie sur lui. Je ne suis pas en train de lui imposer les mains, parce que beaucoup de gens imposent les mains. Pour ces personnes-là, la Bible nous dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. Et si cette personne est justement dans le péché et dans un état justement de lassitude totale à cause de son péché, moi en imposant les mains, je vais entrer en communion avec ces choses-là et je n'ai pas envie de le faire. Vous savez, l'imposition des mains dans la Bible, c'est plutôt ça n'a jamais rien à voir avec la guérison. Rarement, en tout cas. C'est plutôt d'être d'accord. Hein. Par exemple, l'apôtre Paul et Barnabas vont partir en mission et on va leur imposer les mains. On est simplement en train de les accompagner et en accord avec eux, tout simplement. Donc, qu'il prie sur lui pour que le Seigneur intervienne. La démarche vient évidemment de la personne qui ne va pas bien. Maintenant, le berger, normalement, voit quand quelqu'un ne va pas bien. Enfin, sauf s'il est insensible, ça sera vraiment triste. On peut aussi aller le voir et poser des questions. L'idée, c'est qu'avec les anciens et la personne qui ne va pas bien, c'est de l'écouter, tout simplement. Parler avec lui, essayer de voir s'il y a un péché, essayer de voir la cause, pourquoi il est dans cet état-là, à ce moment-là. C'est un moment plein d'amour, hein. C'est pas le moment où on va l'accuser, où on va le faire souffrir. C'est un moment où, justement, on veut l'entendre, parler avec lui. Et en même temps, parce que souvent, peut-être à force, on a oublié, c'est l'assurer que Dieu peut aussi pardonner ce péché, si c'est grave, par exemple, hein, ou même s'il est dans l'amertume. Dieu peut t'aider, Dieu peut te pardonner, à condition, évidemment, que tu fasses la démarche avec le Seigneur. Et ils vont prier, non pas parce qu'ils ont un pouvoir, mais parce qu'ils vont demander à Dieu, tout simplement, le rétablissement spirituel de cette personne, voire physique, si c'est le cas. Voilà ce que demande le Seigneur, simplement, c'est que si vous n'allez pas bien, allez voir les anciens, demandez-leur de prier pour vous, pas forcément directement en faisant l'onction d'huile, on en parle un peu tout à l'heure, mais on peut déjà juste prier ensemble, c'est pas mal. Après, si vous voyez, vous, en tant que frère et sœur, des gens qui sont dans la souffrance, il faut aussi aller prier avec eux. Hein. Ça ne coûte rien d'essayer, non ? C'est pas qu'à moi de bosser. Hein. Mais bon, il y a des cas, c'est vrai, difficiles, et là, vaut mieux nous les envoyer, et même nous, on n'est pas sûr de pouvoir les aider des fois. Et donc, Jacques parle de l'onction d'huile. Vous avez déjà entendu parler de ça, alors, il y en a qui en abusent, il y en a qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur, etc. L'onction d'huile, d'abord, il faudra voir ce que c'était à l'époque. Hein. Alors, il y a plusieurs interprétations par rapport à l'onction d'huile. Par exemple, dans l'Église catholique, hein, c'est ce qu'ils utilisent pour faire l'extrême onction. Vous êtes pardonné de tous vos péchés juste avant de mourir. La Bible nous dit qu'il faut d'abord naître de nouveau. Pour être pardonné de notre péché, ce n'est pas avec un peu d'huile sur la tête que vous allez au paradis. C'est complètement faux. C'est quand même terrible de tromper les gens juste à la fin de leur vie. C'est triste de faire ça. L'Église charismatique qui abuse de cela, parce que pour eux, ils guérissent tout et font des miracles en long et en large, et à coup d'huile, hein, à droite et à gauche. Calvin, les réformés, eux, pensaient que c'était plutôt pour l'époque apostolique et que ces choses-là, on ne doit plus les faire aujourd'hui, c'était propre aux apôtres. Pas forcément d'accord, mais enfin bon. On voit deux formes aussi d'utilisation en fait, de cette huile à l'époque. D'abord, cet aspect sacramentel qui est relatif au sacrement, hein. L'Église grecque d'Occident a adopté cette pratique. L'extrême onction est aussi un sacrement, quelque part. Le sacrement permet d'être sauvé, hein, ou d'ajouter à son salut, on pourrait dire. Dans l'Église romaine, c'est-à-dire catholique, seuls les prêtres peuvent faire cela, alors que Jacques dit que c'est les anciens. J'ai une contradiction, là. Et le but du sacrement, et on n'est pas d'accord, c'est d'éradiquer tous les vestiges du péché et de réconforter l'âme du mourant. On est plutôt en train de le tromper, comme j'ai dit, à ce moment-là. Une deuxième fonction, on pourrait dire, de cette huile, elle est plutôt symbolique. Et moi, je serais plutôt dans ce sens-là. Cette onction est symbolique de la consécration des gens, par exemple dans la Bible. Par exemple, quand un roi était consacré à devenir roi, on l'oignait d'huile, tout simplement. Alors, c'est bien une autre époque aussi. On voit dans Jacques qu'il recommandait de oindre d'huile aussi certaines personnes pour qu'elles puissent être rétablies dans leurs problèmes et leurs difficultés. Dans Marc 6, 13, on voit que les disciples, les apôtres, oignaient d'huile. Il est dit, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'était quelque chose qui était à peu près normal à cette époque-là. On ne sait pas comment il le faisait et dans quelles circonstances, mais en tout cas, il le faisait pour guérir les malades. Mais on n'a pas plus d'explications, hein, donc on ne peut pas non plus aller très loin avec ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'huile, c'était un médicament, en fait. Voilà. Et il avait des vertus curatives, tout simplement. Luc 10, 34 dit, en parlant du bon samaritain, je ne sais pas si vous vous souvenez, « Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin. » Il y avait du vin, non, vas-y, hein. Puis il lui mit ses propres montures et conduisit à l'hôtellerie, etc. Il y avait là un aspect médicamenteux qui était utilisé à cette époque-là. Quelqu'un écrivait par rapport à ça. Lui, il était souvent utilisé comme médicament dans le monde antique. Dans sa parabole bien connue qu'on vient de lire, Jésus déclare que le Samaritain, qui s'était arrêté pour venir en aide à l'homme dépouillé et blessé, s'approcha de lui et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. D'autres sources anciennes témoignent de son efficacité dans tous les traitements. Depuis le mal de dents, prenez de l'huile, jusqu'à la paralysie. Galien, le célèbre médecin grec du IIe siècle, recommandait justement l'huile dans les cas de paralysie. Donc vous voyez bien que l'huile n'avait rien de magique à l'époque, c'était simplement comme nous prenons aujourd'hui des médicaments. Deux façons de moindre à l'époque. D'abord, soit on pouvait frotter l'huile, et dans ce cas-là, on était en train de soigner un malade, on l'employait en cosmétique aussi, hein, mais soit on frottait l'huile, et donc c'était pour soigner la personne de sa maladie, soit on oignait, mais là de façon plutôt cérémonielle, ça avait un sens sacré, hein, et religieux. Et par exemple, dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il n'a pas dit forcément d'huile, mais les rois étaient oints d'huile généralement. Donc il y avait soit on pouvait oindre d'huile pour soigner tout simplement, soit on oignait d'huile, mais là ça avait une fonction vraiment sacrée et cérémonielle, et ça ne se faisait pas non plus tous les jours. En fait, quand Jacques dit « oignez d'huile le malade », il dit plutôt « après l'avoir huilé », c'est littéralement, après l'avoir mis de l'huile dessus, tout simplement. Donc on va plutôt dans le sens du frottement qu'une grande cérémonie où on va oindre quelqu'un avec de l'huile. Bien que souvent, les évangéliques aiment bien faire des grandes cérémonies, justement pour faire une onction d'huile. On peut se poser la question, alors, pourquoi Jacques demande d'oindre d'huile, puisque c'est une vertu curative seulement, et en plus il demande aux anciens de prier. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Pas assez de foi, les anciens, là. Alors, l'emploi de l'huile, à l'époque, elle était plutôt employée pour stimuler la foi de la personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, plusieurs fois, va utiliser des supports physiques quand il va faire des guérisons. Dans Marc 8, par exemple, il est dit « Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux. » Donc, il emploie un moyen, lui imposa les mains et lui donna s'il voyait quelque chose. Lui demanda, pardon, s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et il vit distinctement. Dans Marc 7, 32 à 35, il dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, on lui pria de lui imposer les mains, il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Et on voit d'autres passages où il emploie de la boue, etc. La boue n'a aucune vertu curative, on est bien d'accord. Hein. Si vous êtes jeté dans de la boue, ça vous aide à part les bains de boue, c'est bon, hein, c'est pareil. Mais c'est des supports que le Seigneur utilisait pour produire tout simplement la foi chez celui qui allait être guéri. De la même manière, Jacques propose d'employer cette huile qui avait une connotation dans la tête de ces chrétiens à ce moment-là, qui était une sorte de médicament, et c'était simplement un moyen pour stimuler leur foi, pas pour guérir. L'huile ne peut pas guérir, hein, de cette maladie spirituelle, on va dire, on va en reparler. Aujourd'hui, on a peut-être aussi des chrétiens qui sont dans des tristes situations, et j'en connais des fois qui sont restés toute leur vie dans la dépression en tant que chrétien. Mais on a des médicaments aujourd'hui, on a des psychologues, pas toujours efficaces, mais médicaments et psychologues, des fois, oublient tout simplement le péché. Oui, le psychologue ne va jamais vous parler de votre péché. Et donc forcément, si la maladie ou si cette dépression est liée au péché, vous ne guérirez pas. C'est clair. Et le monde aujourd'hui met tout dans le psychique. Hein. Tout ce qui vous arrive, c'est psychique. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le péché fait des dégâts terribles dans l'être humain. Pas que la dépression, il y a mille autres façons de faire des dégâts dans la vie de quelqu'un. Mais c'est souvent le péché qui est la base de notre mal-être dans notre cœur. Parce que si nous ne péchons plus, nous sommes dans la joie, normalement, heureux. Si on a demandé vraiment pardon pour tout ce qui nous pèse, l'amertume, le manque de pardon, les péchés qu'on a faits, tout va bien normalement. Mais c'est souvent parce qu'on oublie de le faire, ou peut-être on n'a pas la force. Je comprends, des fois, hein, il y a des situations, mais quand même. Et donc cette onction que Jacques propose doit être faite au nom du Seigneur, heureusement qu'il rajoute cela, l'autorité dans cet instant où il faisait cette onction d'huile, vient uniquement du Seigneur. Et celui qui va rétablir, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas les super guérisseurs que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu, tout simplement. À condition, parce qu'il a dit aussi, s'il a péché, qu'il se repente. Quelqu'un qui veut absolument une onction d'huile parce qu'il est dans une grave situation, se propose aussi de demander pardon pour ses péchés. Il y en a qui veulent juste l'onction d'huile pour être guéri, mais ne veulent pas pardonner, confesser les péchés. Et ça, souvent, ben, ça décourage les gens d'aller plus loin. Donc on voit bien que l'homme ou l'ancien ou quiconque ferait ça n'a aucun pouvoir dans ce moment-là, ni même l'huile. La guérison va dépendre et de la personne qui demande, de sa sincérité vis-à-vis de Dieu, et aussi de Dieu lui-même, tout simplement, qui accordera le pardon et rétablira cette personne. C'est pas évident d'aller demander cette onction d'huile, parce que je me mets à nu devant les anciens et devant Dieu aussi, si je le demande. Sinon, ça sert à rien de le faire. Je le ferai pas, dans ce cas-là. Et dit au verset 15, qu'il y a cette prière de la foi qui est nécessaire. Alors là encore, on voit trois mots différents en parlant de la prière dans juste ces quelques passages. Le premier qui, alors c'est à apprendre par cœur pour la semaine prochaine, prosekomai, qui veut dire prier, faire des prières, offrir des prières. C'est prier tout simplement, on pourrait dire. Il y a une dérivation qui est employée au verset 17 qui parle de prière, mais prier avec insistance ou avec instance. Là, on prie un peu plus fortement. Il y a un autre mot, deisis, qui est utilisé au verset 16, qui parle là plutôt de supplication à Dieu ou à un homme. Mais on parle plutôt à Dieu dans la prière. Et puis au verset 15, koi, fait un vœu, c'est faire un vœu, une prière à Dieu avec ardeur. Si vous voulez lire ensuite, tout à l'heure, le texte, j'ai simplement changé les mots pour que ça donne un peu plus de sens à la compréhension du texte. Mais il parle de prier, mais de plusieurs manières, différentes manières. Mais la prière doit être une prière de foi. Si cette personne qui demande l'onction d'huile ne veut déjà pas demander pardon pour ses péchés, mais si elle ne croit pas que Dieu peut et le pardonner et le rétablir, laisse tomber, ça ne sert à rien de le faire. Il faut croire que Dieu peut agir dans la vie de cette personne. Et aussi, une fois dans la souveraineté de Dieu, parce que bon, Dieu n'a pas promis là de guérir. Et Dieu n'a jamais promis de guérir tout le monde de leur maladie. Paul avait des problèmes, il a connu quelqu'un qui était gravement malade, presque jusqu'à la mort. Pourtant, ces gens-là avaient une foi immense, plus que nous, et n'ont pas été guéris pour autant. Mais c'est ça, accepter la souveraineté de Dieu, c'est que nous prions, nous supplions Dieu dans certaines circonstances, mais Dieu ne guérit pas toujours. Je pense que dans le chapitre de Jacques, si vraiment la personne est sincère et que c'était lié au péché, je pense qu'il va être rétabli. De toute façon, une fois qu'on se sent libéré de son péché, de la culpabilité et tout ça, ça va quand même mieux normalement. Par contre, s'il y avait peut-être une maladie qui est liée à ça, là, ça dépendra de Dieu, tout simplement. Il est souverain et voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Si j'avais le pouvoir de guérir, moi, comme certains le prétendent, j'irais partout, dans tous les hôpitaux, je te guéris. Mais c'est vrai, si vous avez le pouvoir, pourquoi vous ne le faites pas? Ben oui, il y aurait beaucoup de gens heureux et peut-être il y aurait même des conversions. Mais évidemment, l'homme abuse. Mais il y a trois effets, dit Jacques, de cette prière. D'abord, le malade sera sauvé. Le mot de sozo en grec est employé aussi pour le salut en général, mais là, on ne parle pas du salut, c'est-à-dire naître de nouveau. On parle plutôt de rétablissement de la santé de la personne, puisqu'il s'adresse là à un frère. Il ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'est pas converti. Donc c'est plutôt être sauvé dans le sens où la personne va revivre, enfin, être rétablie dans sa santé. Le malade sera sauvé, le Seigneur va le relever. Il n'est pas dit, il va le guérir. Faire attention à ça, parce qu'on aurait vite envie de faire le lien. Il dit qu'il va simplement retrouver sa vigueur physique perdue. C'est vrai que quand on a un gros coup de blues, on est aussi fatigué. Les dépressifs dorment énormément. Et plus on dort, plus on devient dépressif. Mais le Seigneur a dit qu'il va le relever, et non pas le guérir physiquement. Il va relever sa foi, va relever ce frère. Et puis la troisième chose, c'est qu'il est dit, ses péchés sont pardonnés, s'il a péché éventuellement. Et donc, le malade ou celui qui est rétabli va avoir aussi l'assurance, avec l'aide des anciens, que le Seigneur lui a pardonné entièrement ses péchés. C'est donc la prière, mais aussi Dieu, qui vont être à l'origine de la guérison. Si nous prions pour quelqu'un fortement, mais sans foi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais quand on prie, on le fait avec foi, avec la conviction que Dieu peut ou pas, mais avec la conviction que Dieu va agir en tout cas. Mais là-dedans, on voit bien que ce n'est pas l'onction d'huile, le fait d'avoir moins d'huile la personne, qui va permettre une guérison. C'est purement symbolique. D'accord ? Donc on n'est peut-être même pas obligé de faire une onction d'huile. Je pense qu'il y aura peut-être des circonstances vraiment graves, j'en ai connu autrefois, mais je n'irai pas le faire à tout vent comme cela. Ça engage la personne énormément aussi. Mais on peut prier pour les personnes qui vont mal. Et ce n'est pas que les anciens qui doivent faire ça. Chaque jour, on est censé prier les uns pour les autres. Et si quelqu'un va mal dans l'église, ben, prions pour lui régulièrement. Donc cette onction d'huile conduit le faible à se répandre devant Dieu, tout simplement, se repentir, pas toujours évident, être honnête avec les anciens, et à demander avec foi, tout simplement, au Seigneur d'être rétabli. C'est pas facile de passer par là, à mon avis. Mais le Seigneur le permet. Mais il y a mille et une autres façons aussi de demander pardon au Seigneur et d'être rétabli. Et puis au verset 16, il va parler de la prière fraternelle. Il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Allez-y. C'est ça qu'il veut dire ? Non, on est loin d'être en train de dire ça parce que ça serait une vraie catastrophe si chacun disait son péché à l'autre. Chacun va s'accuser. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il y en a qui le font. Hein. Quel malheur. Mais bon. À qui s'adresse d'abord cette exhortation et quel péché il faut confesser ? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense qu'il s'adresse à tous, et pas seulement aux anciens ou aux malades, mais il s'adresse à tous les frères qui sont là. Et c'est propre à la communion fraternelle aussi d'aller voir son frère quand on a péché contre lui et de lui demander pardon. Et ça permet justement la communion fraternelle. Quoi confesser ? Eh ben, on se connaît, non ? On est des super chrétiens tout le temps, sans jamais faire d'erreur, sans jamais pécher vis-à-vis de l'autre, c'est ça ? Non, on se connaît, on a nos faiblesses. Des fois, on est fatigué, et puis on dit n'importe quoi. Des fois, on est en colère, des fois... Enfin, il y a mille et une façons. On sait comment on vit dans l'Église, et on sait très bien que des fois, il faut aller demander pardon aux uns et aux autres, parce que on est des êtres humains, ou parce qu'on lutte aussi, parce que dans la persécution, chacun réagit différemment, et on peut bien paniquer des fois, et faire du mal aux autres. Mais il faut le confesser à Dieu, parce qu'il y a d'autres passages dans la Bible qui disent que c'est à Dieu qu'on confesse le péché. On va voir une personne si on l'a enfoncé, pas forcément devant tout le monde, mais on va confesser le péché à Dieu et on va régler le problème avec les personnes. Il y a seulement dans 1 Timothée 5, 20, où il dit que les anciens, les pasteurs, doivent confesser leur péché devant le public, devant l'Église. Donc c'est autre chose. Mais globalement, on ne va pas aller voir les uns et les autres pour aller dire « Ah, cette semaine j'ai péché, voilà. » Mais si c'est le cas, vous pouvez aller voir une personne. Si vous n'arrivez pas, si vous luttez peut-être vis-à-vis d'un péché, allez voir quelqu'un de confiance. Il n'y a pas que le pasteur des fois, hein. Justement, on ne va pas le voir, justement. Mais allez voir quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne va pas colporter ce que vous allez lui dire, ou allez le voir simplement pour dire « j'ai besoin de prier, je lutte », sans dire forcément ce qui se passe, mais je lutte et j'ai vraiment besoin de prier avec toi et que tu pries pour moi aussi pour que j'arrive à m'en sortir. Il y a mille et une manières de faire cela. Mais si on le fait, cette communion fraternelle va persister dans l'Église. Et il dit « afin que vous soyez guéris », le mot « guérir » parle là, par exemple, par rapport à avant, de guérison physique, de soigner, de raffermir. Il touche, quand on va faire une étude du mot, à la fois la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. Si un frère est malade, en plus peut-être si c'est lié à son péché, on peut prier pour qu'il soit aussi guéri physiquement. Mais si quelqu'un est à l'hôpital, j'espère que vous prenez temps pour prier pour cette personne-là. Quand je serai malade sur mon lit à l'hôpital, j'espère que vous penserez un petit peu à moi, quoi. Seigneur, fasse que je ne sois pas malade. Mais on est censé prier les uns pour les autres. Le péché est nuisible, on le sait, il détruit l'homme. Et les avouer, se pardonner mutuellement, ça offre une guérison à celui qui pardonne et à celui à qui aussi pardonner. Et c'est ce qu'il veut dire, hein, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Il ne s'agit pas de faire une confession publique. Sauf peut-être si, par exemple, vous avez quitté l'Église parce que vous étiez fâché, etc., on peut demander éventuellement pardon devant l'Église. Mais bon, on ne va pas tout déballer non plus devant tout le monde. Il dit « la prière agissante du juste a une grande efficacité ». Le mot, on l'a vu tout à l'heure en grec, c'est « supplication », celui qui supplie vraiment Dieu. Le juste, ça concerne tous les chrétiens, Il ne s'agit pas d'être un super chrétien pour se considérer juste et pour se considérer comme celui qui peut seulement supplier Dieu. Tous peuvent supplier Dieu, c'est génial. Non, c'est pas génial. Vous suppliez Dieu quand ça va pas, généralement, vous vous en souvenez pas. Mais on supplie rarement Dieu pour les autres, hélas. Et donc cette prière ou cette supplication, elle doit être fervente, agissante. Et quand elle est comme cela, elle a un grand pouvoir. Non pas qu'on touche et ça se transforme en or, on est bien d'accord, mais elle a un grand pouvoir dans le sens où Dieu nous entend. C'est pas qu'il nous entend pas d'habitude, mais c'est qu'on montre à Dieu qu'on désire quelque chose ardemment. Et il écoute. Parfois elle dira oui, parfois elle dira non. Et il prend l'exemple d'Élie. Il dit qu'il est de la même nature que nous, parce qu'on pourrait se dire, nous, on n'est pas le prophète Élie. Enfin, quelqu'un se sent comme le prophète Élie. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Je ne me sens pas du tout. Et pourtant, Jacques dit, il est de la même nature que nous. En grec, ça signifie qu'il souffre avec les autres. Ou alors que ses sentiments sont semblables aux nôtres. Bref, il est comme nous. Ben ouais. Alors, on n'a pas fait le même travail que lui, évidemment. Dans l'Ancien Testament, il a fait énormément de choses. Mais il est exactement comme moi, même nature. Il souffre comme moi, il a les mêmes sentiments que moi, et Dieu l'a employé dans certaines circonstances. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le contexte, hein. C'est dans 1 Roi 17.1, où Dieu va faire cesser la pluie au travers de Élie et pendant 3 ans et 6 mois. Et puis au bout de 3 ans et 6 mois, il priera de nouveau pour qu'il se mette à pleuvoir. Vous avez déjà prié pour qu'il arrête de pleuvoir ? Oui, mais enfin, il y a un objectif là, hein. C'était une punition. Hein. Si vous dites juste arrête de faire pleuvoir parce que je vais aller faire mes courses, je ne pense pas que Dieu va vous écouter, encore que des fois peut-être. Mais la raison, c'était à cause du péché, Dieu a envoyé la sécheresse pour punir le peuple. Hein. Donc cette cessation de la pluie avait un but, et il était grave ce but-là. Donc on ne va pas prier Dieu pour ce genre de choses, et Dieu ne nous demande pas non plus d'aller juger les peuples. Nous ne sommes pas prophètes comme lui à l'époque. Mais il y a des circonstances, des difficultés, des épreuves dans la vie que les autres connaissent, et on peut prier de la même manière qu'Élie, avec la même foi, avec le même empressement, et vous serez surpris que des fois Dieu répond, tout simplement. Lui a obéi tout simplement à Dieu, Dieu lui a dit de faire certaines choses. Vous imaginez si Dieu vous disait, maintenant prie pour que la pluie cesse, vous y croiriez? Peu d'orage pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois, vous seriez prêt à le faire? Vous croyez que ça va marcher? Hein? Bon, il était particulier, évidemment, Élie, hein, mais l'idée, c'est qu'on peut supplier Dieu, tout simplement, dans des circonstances difficiles. Et si lui l'a fait, nous pouvons, nous aussi, avec la même nature, tout simplement, supplier Dieu. Il n'y a pas besoin d'être un super chrétien. Et les versets 18 à 20 posent quelques petits problèmes, parce qu'il dit de prier pour ceux qui s'égarent. Je vais les relire juste... « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui le ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Certains pensent que là Jacques parlait de non-croyants et d'autres pensent que Jacques parlait de croyants. C'est parti. La vraie question, c'est que oui, on peut voir, parce que les commentaires sont vraiment divisés là-dessus. Maintenant, moi, j'ai fait une petite enquête personnelle. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais déjà, il parle de si. Hein. C'est hypothétique. Ce n'est pas un cas avéré déjà. Mais bon, ça peut arriver qu'un frère s'égare. Il dit parmi vous. Si quelqu'un parmi vous, parmi les frères déjà, hein, et non pas parmi nous. Parce que quand il dit les frères, il s'attache à tous les chrétiens, pas forcément aux gens qui sont dans l'Église. Il aurait plutôt dit dans ce cas-là parmi nous. Mais si vous regardez dans le reste des textes, vous voyez qu'il emploie plusieurs fois parmi nous, par exemple au chapitre 3, il parle en disant parmi vous ceux qui enseignent. Je pense que ces parmi vous sont des croyants, et non pas des non-croyants. Un peu plus loin, au chapitre 4, verset 1, il parle de qu'il y a parmi vous des luttes. Les disputes entre les frères. Et là encore, une fois, il parle de chrétiens. Donc cette expression « parmi vous » pour lui signifiait qu'il s'adressait aux frères et aux chrétiens. Il parle de cette personne qui s'égare. Alors il emploie deux mots, hein, encore une fois, enfin deux verbes. Le mot « planao », hein, interrogation la semaine prochaine, hein, qui veut dire égarer, être dans l'erreur, séduire, être trompé. Le mot « planète » vient de ce mot. On parle d'une planète comme un être vagabond céleste, hein, qui s'est perdu quelque part. C'est la même chose, peut-être un frère peut à un moment s'égarer dans sa foi. Il y a un autre verbe au verset 20 qui parle plutôt d'imposture, de séduction et d'être égaré. Enfin, il y a quand même l'idée quelque part que cette personne s'est complètement perdue. Moi, je pense que c'est un croyant qui s'égare par rapport à la vérité, puisqu'il dit s'égare par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est la doctrine, c'est la Bible. C'est aussi peut-être la mise en pratique de cette parole. Parce qu'on peut connaître la doctrine et ne pas la mettre en pratique dans sa vie. Un non-croyant ne peut pas s'égarer loin de la vérité parce qu'il ne connaît pas la vérité. Ça me pose un problème. Il ne s'est même pas approché de cette vérité. On voit dans 2 Pierre 3,17 « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Pierre, dans sa tête, avait l'idée qu'un chrétien pouvait, à un moment, sous l'influence du monde, être perdu, s'égarer dans sa foi, tout simplement. Et d'autres passages disent que quelques chrétiens ont fait naufrage par rapport à leur foi aussi. Donc un chrétien peut très bien, à un moment, pour mille et une raisons, s'égarer par rapport à la doctrine, par rapport à la vérité, par rapport à la pratique. Il s'égare loin, alors là c'est un peu technique, mais dans le grec on dit plutôt « il s'égare loin de », parce qu'il emploie un temps à ce moment-là, plutôt que « il s'égare hors de ». C'est-à-dire que la personne dont parle Jacques s'égare loin de la vérité et pas hors de la vérité, comme s'il n'avait jamais été dedans. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux expressions. Donc cette personne s'éloigne de la vérité, mais elle connaissait cette vérité, J'entends des bruits. Ça vient jusqu'à l'entendre. Un non-croyant ne peut pas s'égarer hors de la vérité puisqu'il ne l'avait pas connue. Ça va, vous me suivez ? Facile. Un autre l'y ramène. C'est intéressant qu'on relie. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, donc il parle d'un frère, loin de la vérité, et qu'un autre frère, il me semble, ces deux personnes, celui qui s'égare et celui qui va le ramener, font partie du même groupe. C'est-à-dire du groupe des frères dont il est en train de parler à ce moment-là. Donc c'est un autre chrétien qui va ramener. Alors le mot grec veut parler aussi de convertir, c'est pour ça que ça peut poser des fois des problèmes, mais ça veut dire aussi aider quelqu'un à faire demi-tour de sa voie, tout simplement. Quand on se convertit, quand on est de nouveau, c'est vrai qu'on fait un demi-tour. Mais il nous arrive aussi des fois dans notre vie chrétienne de devoir s'arrêter dans notre voie et de faire demi-tour par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc ce frère qui voit un autre frère s'égarer va aller le chercher et lui fait faire tout simplement un demi-tour. Ce quelqu'un est nommé pécheur. C'est là où beaucoup de commentateurs disent « mais oui, voilà, il parle là d'un pécheur ». Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, souvent le pécheur, c'est celui qui est perdu. Mais en tant que chrétien, on n'est pas encore pécheur. À moins que vous soyez parfait, je serais heureux pour vous, mais je ne vous croirais pas. Mais on sait, nous encore, on est pécheurs. Même Paul lui-même se dit être le plus grand des pécheurs. Donc, ce n'est pas parce que le mot est employé ailleurs forcément qu'on parle uniquement de pécheurs. Ça peut être simplement, là, il est dans le péché, certainement, puisqu'il va loin de la vérité. Donc, forcément, il est dans le péché. Et on parlerait juste d'un pécheur, comme le chrétien parfois chute, il pêche tout simplement devant Dieu. Et si ce frère ramène l'autre, ça lui permettra d'être sauvé. Mais vous voyez, c'est le salut. On avait vu que tout à l'heure, le mot de sozo qui est employé là de nouveau, ne parle pas forcément du salut spirituel, mais plutôt de rétablir aussi peut-être la personne dans certaines circonstances. Si j'arrive à ramener cette personne qui s'est égarée, elle va être bien, elle va être rétablie dans sa foi, et ça va lui faire forcément du bien. On peut se rappeler aussi de Ananias et Saphira, qui ont triché devant Dieu. Ils ne se sont pas laissés rétablir, ils sont morts. Donc, parfois, peut-être même le chrétien peut être dans une telle situation. Je pense, par exemple, dans le contexte, vous êtes chrétien, on vous persécute, on vient de massacrer votre famille. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? D'aller massacrer celui qui a fait. Et vous allez le tuer, sous la rage. La loi exige que vous mouriez. Voilà. Donc, vous risquez de la peine de mort, tout simplement. Donc, il arrive aussi, des fois, qu'on puisse être sauvé, c'est-à-dire d'éviter, des fois, des peines capitales. On a aussi la scène, on l'a vu tout à l'heure, que prendre la scène n'importe comment, Dieu peut des fois tuer, mettre à mort, ou rendre malade quelqu'un. Donc on peut être sauvé, pas forcément que du salut, mais de bien d'autres choses. Et si j'arrive à ramener mon frère qui s'égare pour lui éviter ce genre de choses, il sera content de ne pas mourir. Le péché peut conduire à la mort physique d'un chrétien, on l'a dit. 1 Timothée 4,16 dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il n'est pas en train de dire là par rapport à sauver, qu'il va se sauver, c'est-à-dire naître de nouveau. Il est simplement en train de dire, parce que si on connaît le contexte, il va se sauver des faux docteurs qui étaient en train d'enseigner des fausses doctrines. Donc le verbe sauver peut être employé de mille et une manières. Il suffit d'aller voir le contexte. Hein. Il ne s'agit donc pas là de salut, mais plutôt de la restauration de ce frère qui s'est tout simplement égaré. Là-bas ? Il couvre. Il est dit, s'il fait cela, il couvre une multitude de péchés. S'il se repent, évidemment, de son égarement. Le verbe couvrir parle de couvrir, cacher, empêcher la connaissance d'une chose. Remarquez qu'il dit qu'il ne le sauve pas. Il dit qu'il va couvrir les péchés. Ou il n'est pas dit il pardonne les péchés, mais va couvrir les péchés. En somme, si j'arrive à rattraper mon frère de toutes ces bêtises qu'il allait faire, je vais couvrir ses péchés dans le sens, déjà, je ne vais pas dire ce qu'il a fait, mais je vais lui éviter bien des bêtises plus tard. C'est ça qu'il veut tout simplement dire. Je vais éviter qu'il fasse encore plus de bêtises et qu'il soit encore plus coupable devant Dieu. Le même mot est employé dans 1 Pierre 4, 8. Il est dit avant tout, « Ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Quand je couvre le péché d'un frère, je ne lui pardonne pas. Je n'ai pas la capacité, sinon je ne m'appelle Jésus. D'accord ? Mais je peux parfois, parce que je sais quelque chose dans l'Église, je ne vais pas le raconter à tout le monde, je couvre cette chose-là, ça a été réglé, et personne ne sera jamais au courant. Voilà. Et là, l'idée, c'est exactement la même chose, mais il y a peut-être aussi dans le sens où ce qu'il risque de faire, en le ramenant, je couvre là, quelque part, beaucoup de péchés. Et c'est génial si on peut éviter cela à quelqu'un, et surtout s'il doit subir une condamnation à mort. Voilà ce que veut dire tout simplement Jacques, c'est que si je vois un frère, moi je suis plus d'accord pour le frère. Maintenant, s'il fallait imaginer que c'est un non-croyant, pourquoi pas ? On ne va pas se battre, on verra bien un jour, mais j'ai quand même plus d'arguments en faveur du chrétien. Mais c'est vrai qu'on peut aussi aller courir vers les non-croyants, dans nos familles, chez nos collègues, les évangéliser et les ramener pour pouvoir les pousser à la conversion. Les deux cas sont de toute façon possibles. Mais à nous, en tant que frères, d'être un peu sensibles aux autres aussi. Et que si je vois quelqu'un qui n'est pas là à l'église depuis 3-4 semaines, ce n'est pas toujours au pasteur d'aller téléphoner, de se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à chacun d'entre nous, à un moment aussi, de se dire, tiens, je pourrais l'appeler, lui envoyer un petit SMS, poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Et si on peut le ramener parce que justement, il est allé loin, eh bien, c'est formidable. Attention à l'orgueil derrière. Mais ça sera l'occasion de parler avec lui, de le consoler, de l'encourager. Mais c'est surtout cette sensibilité aux autres qui est importante. Et c'est ça que Jacques veut tout simplement nous enseigner. Et si on peut parler, encourager cette personne, eh bien c'est formidable. Et si en plus la personne revient de son péché ou de son égarement doctrinal, par exemple, là il faut des fois du temps, eh bien on sera très heureux de voir ce frère de nouveau dans l'Église. Ça s'appelle l'amour, tout simplement aussi. Ça c'est l'amour, d'être sensible aux autres, à leurs difficultés. Quand on voit les gens ces fois s'éloigner, on est plutôt en train de les condamner. Ben, lui, il n'y a pas, il dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, l'amour, c'est d'aller poser la question et d'aider cette personne à être rétablie. Tout le monde peut prier avec efficacité. Ah ouais ? C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi, si c'était comme moi. Mais tout le monde peut prier avec efficacité. Et si on l'a compris, ça nous donne envie de prier, parce que si ça peut devenir vraiment efficace, alors là, j'ai envie de prier. Pour les uns, pour les autres, pour les sujets que la vie nous mène, nous amène. Mais à condition, évidemment, de prendre le temps de le faire. Je peux savoir que je peux prier efficacement et ne jamais le faire. Je prie efficacement pour moi tout le temps. Ça, c'est sûr, ça marche tout le temps, et encore. Mais je prie rarement efficacement pour les autres, avec la même passion que pour moi, avec le même zèle que je fais pour moi. C'est ce que demande tout simplement Jacques, prier pour les autres. Pour terminer, Jacques nous apprend que la prière a de multiples formes. C'est génial. Prier, c'est pas ennuyant. Il y a mille une manière de prier, mille une circonstance, mais une façon de faire, peut-être aussi, parce qu'il y a énormément d'autres choses dans la Bible par rapport à la prière. Mais la prière peut permettre de soigner l'âme, et peut-être même des fois le corps, si Dieu le veut, tout simplement. Mais prier pour les autres, ça permet de, déjà soi-même peut-être, mais aussi réconforter les autres. Mais il faut le faire. C'est ça le problème. Et je ne sais pas si on prie les uns pour les autres. Pas que pour mon copain dans l'église, pour celui que j'aime pas aussi. Enfin, on ne devrait pas ne pas aimer quelqu'un dans l'église, mais je dois prier pour tout le monde. Ah, mais j'ai pas de mémoire. Non. Vous avez des petits téléphones aujourd'hui avec des petites listes là. Tous les dimanches, vous regardez un prénom ou deux, vous notez, et puis au fur et à mesure, dans un mois, vous allez noter tous les prénoms. Vous connaissez pas le prénom ? Tu t'appelles comment ? C'est pas compliqué de poser la question. Et si chacun prie vraiment les uns pour les autres, Moi, je suis convaincu que ça va changer beaucoup de choses dans cette Église. Déjà pour vous, mais aussi pour l'Église. Avant de faire une onction d'huile, moi je pense, alors il y a beaucoup de débats chez les baptistes, mais on ne va pas se battre, mais avant de faire ça, avant de faire du cinéma, parce que pour moi des fois c'est du cinéma, je pense qu'il faut prendre le temps avec les personnes déjà de discuter, d'essayer de régler les problèmes, qu'il arrive à faire une confession si vraiment il y a un péché. Il y a d'autres étapes, je pense, avant d'arriver jusque-là. Mais si la personne le demande vraiment, on en discutera en conseil, on verra bien. Profitons sans relâche des vertus de la prière pour nous et pour les autres. C'est à notre disposition un outil extraordinaire, une arme extraordinaire pour toutes les circonstances de vie, à nous évidemment d'en profiter. Je conclue l'épître de Jacques. Vous avez vu que c'est très pratique cette épître. Il y a un peu de doctrine, mais il y a aussi beaucoup de choses pratiques. 1000 conseils de Dieu pour les chrétiens dans l'épreuve, et pour nous aujourd'hui aussi, même si on se trouve aussi des fois dans l'épreuve. Mais si vous la relisez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre pour la vie pratique du chrétien, tout simplement. Et si je mets en place ces choses-là dans ma vie, ça va devenir efficace. Si je soigne mon cœur, ça fait du bien. Un cœur qui pense bien, qui n'a pas de haine, qui n'a pas d'amertume, c'est un cœur qui se porte bien. Si ma bouche se laisse soigner, parce qu'on l'a vu, la bouche fait beaucoup de bêtises, mais si j'apprends à laisser cette bouche se soigner parce que mon cœur se laisse soigner, alors je vais commencer à avoir que des paroles de bénédiction les uns pour les autres. C'est mieux que les gros mots, non ? Ah oui, vous m'avez fait peur, là. Si je règle les problèmes par rapport à l'argent, à la jalousie peut-être de ceux qui sont riches, à ma position financière, où des fois je me compare, si je règle tout cela, mon cœur va aller beaucoup mieux. En fait, tous ces conseils que donne Jacques poussent à la sanctification, à grandir, à se laisser transformer par le Seigneur. Et celui qui obéit au Seigneur, qui se laisse transformer, va devenir de plus en plus joyeux, tout simplement. Alors réjouissons-nous. Je ne vais pas sourire, j'essaie, mais souvent je ne vais pas sourire. Réjouissons-nous, mais au moins dans le cœur, parce qu'avec Dieu, on peut absolument tout traverser. C'est formidable. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et pour cette épître de Jacques qui est vraiment une boîte à outils d'aide, de rappel, de reprise peut-être de nos péchés. Aide-nous à la méditer, à la mettre aussi en pratique, à nous réjouir de te connaître et de savoir que tu veux nous aider. Comme nous l'avons vu, il peut nous arriver parfois de passer par des moments de grande difficulté, de faiblesse spirituelle. Que tu donnes le courage à ces personnes à qui ça arrive de convoquer les anciens, peut-être de parler aussi à d'autres, et de partager ce fardeau pour qu'on puisse prier pour lui, pour qu'on puisse l'encourager, lui rappeler que Dieu pardonne, quoi que nous ayons fait, mais en tout cas avec l'idée de rétablir cette personne. Apprends-nous à être sensibles aussi vis-à-vis des frères et des sœurs, en particulier ceux qui s'éloignent. Donne-nous du temps pour, pourquoi pas, les aborder ou aller voir le pasteur pour dire. Enfin, il y a mille façons de faire, Seigneur, de prier pour eux. Voilà, Seigneur, rends-nous responsables les uns des autres dans la prière et dans l'amour que nous voulons avoir les uns pour les autres. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, et encourage-nous encore dans notre vie. En Jésus-Christ.